BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Il nous reste 58 minutes à passer ensemble. On va faire en sorte que ces 58 minutes soient votre moment, que ces 58 minutes soient pour vous une opportunité d'investissement pour construire votre avenir. Bienvenue à tous, on vous accompagne au rythme des marchés. Étienne Braque, depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Rebonsoir Étienne, on s'approche de la clôture, on est à 32 minutes. Comment ça se présente ce soir ?
Eh bien écoutez, c'est du rouge, mais ça s'accentue puisque vous avez désormais un indice qui passe sous la base symbolique des 8000 points. De peu, 7 996 points, des volumes d'échanges qui sont là, qui sont présents. 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice pour cette dernière séance du mois d'avril. Un mois d'avril dans le rouge, hein, puisque pour l'instant, le CAC 40 perd un peu plus de 2% en l'espace d'un mois, après 5 mois dans le vert. Il ne faut pas l'oublier. Du côté de Wall Street, c'est également une pause qui est en train de s'amorcer avec trois indices américains qui perdent de l'ordre de 0,4%. Là aussi, vous avez trois indices qui sont en territoire négatif sur l'ensemble du mois. À noter les cours du pétrole qui reculent de façon importante, hein, moins 1,5% pour le Brent qui revient à 85 dollars alors que le marché espère un cessez-le-feu au Moyen-Orient.
Une fin avril pluvieuse sur les indices avec des indices d'inflation très contrastés aux États-Unis. Elle colle, l'inflation ici en Europe, elle ralentit à nouveau un petit peu. On a eu un chiffre encourageant du mois d'avril ce matin, on va en parler bien sûr avec nos experts. Les publications, là c'est la lessive en l'occurrence, on est plutôt sur une appréciation négative des marchés sur les publications du jour, notamment Stellantis qui perd plus de 8,5% après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse sur un an de 12% quand même. Impact des déstockages, des effets de change défavorables aussi. Mercedes, Volkswagen dans le secteur aussi souffrent aujourd'hui après leur publication. Puis Air France, nouvelle déception, nouvelle aggravation de la perte opérationnelle. Le titre Air France KLM aussi recule de 3,5%. Vous cherchez des valeurs en hausse ? Alors on en trouve quand même à Paris bien sûr, AXA, L'Oréal, mais aux États-Unis surtout. Eli Lilly trace son petit bonhomme de chemin. Le titre Eli Lilly gagne encore 6,5% aujourd'hui. Eli Lilly qui relève ses prévisions, l'un des fabricants des médicaments anti-obésité. Et l'ironie du calendrier, le hasard du calendrier, c'est qu'Eli Lilly aujourd'hui publie en même temps que McDonald's qui recule d'1% ou encore Coca-Cola. Ce match entre McDo, Coca-Cola et Eli Lilly, on va vous le proposer dans un instant. On vous dira des acteurs des médicaments anti-obésité et des acteurs tels que McDo ou Coca, on vous dira à qui l'avenir appartient en bourse. C'est parti, on est à vos côtés jusqu'à 18h.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et on évoquait aussi alors les chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont été publiés aujourd'hui. En fait, c'est l'inflation notamment des prix des maisons aux États-Unis sur un plus haut depuis 2022. On évoquait aussi le coût de l'emploi qui repart à la hausse au premier trimestre aux États-Unis. Ce sont pas de bonnes nouvelles pour la réserve fédérale américaine qui commence à peine à se réunir. On en parlait avec John Plassard, c'était à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. N'hésitez pas, ce replay, à le consulter. Vous y retrouvez sur l'application tous les replays de BFM Bourse. Et maintenant, alors justement, que va faire la Fed, qui se réunit, qui annoncera demain sa décision de politique monétaire, et puis, quelle perspective pour les marchés ? Jean-Jacques Frimann est avec nous. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue pour Vega IM. François Monnier aussi nous accompagne en fil rouge. Rebonsoir François.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction d'Investir. On termine donc avec ces chiffres d'inflation aux États-Unis, sous pression. Pression obligataire, le 10 ans américain remonte à 4,67. Et les actions reculent, du coup, on est à moins 0,6 sur le CAC. Séance pluvieuse, Jean-Jacques, d'abord à l'image du mois d'avril au global, mais aussi le mois d'avril sur les marchés, qui aura été largement négatif pour le CAC et pour Wall Street. Quelle leçon est-ce qu'on en tire pour la suite et pour la suite du printemps, qu'on espère un peu meilleur quand même en bourse ou pas ?
Il y a une fragilité maintenant qui est apparue quand même. Je veux dire qu'il y avait une tendance qui était assez claire, parce que les deux moteurs finalement, à la fois de la croissance, semblaient solides, et même les chiffres aujourd'hui de l'inflation sur les maisons, a fortiori, s'indique que malgré la hausse des taux, il y a une demande sur l'immobilier. Donc tout ça corrobore finalement des chiffres de croissance assez solides et montre que le chiffre un peu moyen qui est sorti sur le premier trimestre aux États-Unis sera sans doute révisé en hausse. Il y avait des composantes un peu techniques qui montrent que ce chiffre en réalité sera sans doute supérieur à 2%. Mais avant, il y avait ce moteur allumé et puis il y avait le moteur de la future baisse des taux de la Fed qui était un élément important. C'est-à-dire que le niveau des taux, on y reviendra long notamment, c'est des éléments intéressants, mais la dynamique de taux, souvent, avant la baisse des taux, le marché aime bien cette situation, il aime bien attendre la bonne nouvelle et c'est un moteur supplémentaire. Et donc il y a un des deux moteurs qui a calé et aujourd'hui on voit que le marché il est comme un peu sur le fléau d'une balance. Il a peut-être 500-600 points à perdre à la hausse ou à la baisse et il attend de voir dans quel sens vaciller. Et on voit que tout le monde va se mettre dans ce sens-là dès qu'il semblera avoir franchi un des deux points techniques importants.
Et en même temps, on peut se rassurer en se disant on a perdu sur les marchés 1,5-2% en avril. Enfin, c'est pas non plus gigantesque en partant de niveau record alors que le marché quand quand même a eu des douches froides en matière d'anticipation de baisse de taux. Oui. Du côté des États-Unis, les choses se sont carrément ajustées. Voilà. Mais le marché n'a pas reculé plus que ça. On n'est pas sur du moins 5, moins 10, pas du tout. Oui, moins 1,5, moins 2, ça reste relativement modéré malgré
peut-être
tout.
Peut-être parce que sur le marché européen, finalement, il y a toujours l'anticipation de sans doute une baisse des taux en juin et peut-être suivi d'une baisse des taux en juillet. Enfin, l'idée qu'il y aurait au moins deux baisses. Et puis, peut-être que la hausse des taux, ça a favorisé le cycle un peu plus value et donc que ça favorisait l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc, ces deux éléments ont fait que l'Europe, qui en plus a une trajectoire de croissance qui va s'améliorer. On voit bien que des plans Repower vont dans le bon sens, qu'aujourd'hui on a les chiffres de croissance qui étaient plus forts qu'attendus.
Au premier trimestre, plus 0,3% d'un trimestre sur l'autre.
Voilà. Et surtout dans, tous les quatre principaux pays, de manière un peu homogène. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc ces deux éléments, plutôt des surprises économiques plus favorables en Europe depuis quelques semaines. Et là, le potentiel finalement et le décalage ou le découplage entre la baisse des taux aux États-Unis et en Europe, ça semble quand même engagé. Après, c'est peut-être les premières baisses qui sont bien engagées. La question de la tendance, il faudra que la Fed emboîte le pas sans doute pour aller au-delà de baisse des taux. Elle peut faire cavalier seul peut-être en juin, juillet. Après, il faudra quand même que la Fed emboîte le pas.
Vous sentez que le chemin s'éclaircit plus pour les marchés européens que pour Wall Street, là, pour la suite, François ?
Non, je pense qu'on a besoin de Wall Street. C'est quand vous commentez l'inflation, sans vouloir être caricatural, on a le sentiment quand même que l'inflation en zone euro, les investisseurs s'en moquent un petit peu. Oui. Et sont vraiment focalisés sur les États-Unis et la croissance américaine.
On le voit sur la séance du jour. Hein. Donc, on a de bonnes nouvelles sur l'inflation en Europe et pourtant les marchés reculent parce qu'on a de mauvaises nouvelles pour le coup aux États-Unis.
Donc c'est bien qu'il y ait des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation et donc un recul de l'inflation en zone euro. Oui. C'est bien et ça valide le scénario que la BCE va baisser ses taux en juin et que ce sera la première banque à les baisser. Mais tout le monde sait que la BCE ne peut pas faire cavalier seul et que si derrière la Fed n'enclenche pas des baisses de taux, une baisse de taux ou deux baisses de taux, ça ne change pas vraiment la donne. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que la qualité des résultats des entreprises est toujours au rendez-vous au premier trimestre. Il y a quelques réactions épidermiques sur des titres, mais des titres qui ont aussi fortement monté. Globalement, l'activité, elle est toujours là. Les perspectives sont quand même globalement rassurantes. Et on a des marchés qui tiennent relativement bien. Donc, on est plus sur une pause dans le domaine de la hausse, dans un marché haussier, qu'un changement d'orientation. Après, il faut qu'on ait plus d'informations. Donc là, on est plutôt dans une pause dans la hausse. On va être très attentiste de savoir si baisse ou pas des taux de la Fed, parce qu'au départ, il y a même des banques qui, l'année dernière, annonçaient 10, 15, 20 baisses de taux de la Fed, vous l'avez même commenté, et là, on se dit, finalement, est-ce qu'il y en aura une ?
On va la citer, c'était UBS, notamment, qui voyait le plus de baisses de taux de la part de la Fed. Bon, bonjour UBS. Non, mais après, ça,
mais globalement, là, on ne sait même pas s'il y en aura une. Donc, est-ce qu'il y en aura une en septembre ? C'est compliqué, parce que c'est deux mois avant la campagne.
Oui, parce qu'en même temps, tout le monde se moquait de ceux qui pensaient qu'il n'y aurait quasiment pas de baisse de taux. Finalement, ce seront peut-être eux qui auront raison.
Ouais. Oui, et on voit que c'est extrêmement difficile finalement d'être économiste. Il faut mieux être gérant. Les économistes se sont trompés sur la croissance américaine en disant c'est sûr, les États-Unis vont rentrer en récession et c'était le scénario tout au long de l'année 2023. Donc au départ, c'était début 2023, après mi-2023, après fin 2023. Et puis cette année, c'était il y aura X baisse de taux. Et là, à chaque fois, on réduit le nombre et maintenant, on ne sait même pas s'il y en aura une. Donc, on voit que le métier d'économiste, c'est quand même très compliqué. C'est, en tout cas, c'est aussi compliqué que d'être gérant.
Alors, le métier de journaliste, il est très confortable dans tout ça.
Absolument.
Il faut le dire. On est là, on pose des questions. Voilà, on est très
bien. Vous avez
le
plus beau métier du monde.
C'est pas faux. Et on s'enrichit des réponses des autres pour poser de nouvelles questions qui vont encore. Enfin, c'est formidable quand même.
Donc, c'est.
Oui, oui. Mais alors, vous êtes journaliste aussi quand même, François, directeur de la rédaction du magazine Investir. Vous allez malgré tout devoir vous mouiller. Est-ce qu'à vos yeux, il devient désormais probable que la Fed ne baisse pas ses taux cette année?
Non, je pense que la Fed baissera ses taux en décembre. Et là, le scénario quand même le plus probable, c'est que Trump va prendre le pouvoir aux États-Unis. Mais bon, il y a encore un peu de suspense parce qu'on n'est pas à l'abri de quelques sorties. Mais on a vu que ces sorties verbales, ne pénalisaient pas, en tout cas, son fan club. Et Trump voudra taper très fort sur les baisses de taux. Donc, quoi qu'il arrive, il a même prévu déjà de changer éventuellement Jerome Powell il le trouve pas suffisamment, entre guillemets, docile, alors que c'est lui qui l'avait nommé lorsqu'il avait pris le pouvoir, lorsqu'il avait été élu précédemment. Donc je pense qu'on aura quand même une baisse des taux en décembre. Mais c'est pas du tout le scénario. Je rappelle qu'en décembre 2023, le consensus attendait une baisse des taux dès mars 2024. Donc on perd un petit peu de temps et ça montre quand même que l'inflation, elle est quand même là. Elle est durablement peut-être là. On rentre dans un nouveau système où finalement les gains de productivité ne sont pas énormes. Il y a toujours besoin d'énormément de main-d'œuvre. Donc on a un marché de l'emploi qui est relativement tendu. On a quand même des collaborateurs qui ne veulent pas non plus s'exténuer au travail. Donc il faut plus de collaborateurs. Donc l'approche de dire est-ce que l'inflation est durable, elle est probablement possible. Et en tout cas, se dire qu'on va redescendre sous les 2%, ça va pas, ça paraît quand même compliqué. Hein.
Oui. Et donc on imagine. Enfin. Dans ce scénario où l'inflation ne repasserait pas sous les 2%, on imagine les banques centrales maintenir leur taux au niveau. Alors, la Fed surtout, parce que la BCE, voilà, l'inflation ralentit davantage peut-être ici, mais la Fed maintenir ses taux effectivement jusqu'en décembre. Enfin, vous, chez Vega IM, comment est-ce que vous ajustez le calendrier pour la suite? On vous pose la question notamment sur la Fed parce que les membres de la Fed sont réunis et communiqueront demain soir, notamment Jérôme Powell fera suivre la conférence de presse demain soir.
Il me semble que le balancier est parti beaucoup trop loin. Je sais plus, il y a 25-30% des gens qui anticipent une hausse de la... Ça me semble impossible. Un point quand même important, c'est que pendant toute l'année 2022 et 2023, les investisseurs anticipaient davantage de mouvements que la Fed. Là, c'est la Fed elle-même qui, en décembre, a indiqué le fait qu'il y aurait, avec les dots, trois baisses de taux. Donc c'est la première fois finalement que la Fed est en avance parce qu'elle voit bien le risque potentiel de maintenir des taux trop élevés. Et donc eux visaient absolument une fenêtre qui se refermait pour pas grand-chose. Hein. Le chiffre de 0,4 d'inflation du mois dernier, il sortait 0,35 et des poussières. Il serait sorti 0,3, peut-être que la Fed saisissait l'opportunité. Donc nous, il nous semble toujours qu'il y a matière à avoir peut-être deux baisses de taux. C'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'ensuite il y a le calendrier politique qui peut venir biaiser cet élément-là. Mais d'un point de vue économique et d'un point de vue risque et d'un point de vue taux d'intérêt réel, il y a tous les éléments en effet pour baisser les taux plus rapidement. L'idée, c'était qu'il y avait un effet de base favorable, qu'elle allait réussir son mandat et donc toucher 2%, et qu'ensuite finalement après, elle allait dire bon bah on libéralise peut-être que voilà maintenant on a un objectif entre 2 et 3. Mais avant d'indiquer cet objectif un peu plus élevé, l'idée sans doute c'était de montrer qu'elle ne le dit pas par non-atteinte de ses objectifs, et par renoncement, mais finalement, une fois que la bataille était gagnée, là, de pouvoir indiquer que bah, elle donnait un peu plus de marge de manœuvre à sa politique de taux.
Dans 20 minutes, la clôture, on va la vivre en direct. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance en Europe, dernière ligne droite du mois d'avril d'ailleurs. Et cette clôture, alors qu'on accélère, est pressentie dans le rouge. Hein, très nettement, le CAC 40 même accélère à la baisse. On abandonne en ce moment sur le CAC 1%, voilà, près d'1%, et on repasse sous les 8000 points, 7973 en ce moment sur l'indice CAC 40, parce qu'à Wall Street aussi, on accélère un peu la baisse, -0,7 le S&P, -0,8 sur le Nasdaq. Et du coup, les valeurs qui étaient sanctionnées depuis ce matin le sont encore plus, là, à l'approche de la clôture. Stellantis, accrochez-vous bien. Tenez bien ceinture, le titre Stellantis perd 10% désormais, -10%, on accélère très fortement à la baisse sur Stellantis, donc avec des effets de déstockage qui pèsent sur le groupe, des effets de change aussi, on va en reparler dans un instant, et dans son sillage Renault qui recule de 6,4%. À la hausse quand même, alors quelques rescapés, on peut commencer à les qualifier comme ça, notamment des valeurs défensives, Sanofi est en tête du CAC à +1%, Danone +0,1%, L'Oréal +0,6%, puis Veolia gagne 0,2%. Voilà un certain nombre de défensives qui parviennent à tirer leur épingle du jour, on appellera Étienne Braque dans un instant. Depuis la tour Euronext, Stellantis -10%, François Monnier, là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vrai que c'était l'une des plus fortes hausses depuis le début de l'année. Publication décevante, enfin, pas non plus cataclysmique, et on est sur du -10 ce soir.
Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a un phénomène de prise de bénéfices. Vous avez un recul d'activité, on vous annonce des stocks, et on vous annonce finalement que la visibilité n'est pas si bonne que ça. Donc, vous êtes sur un dossier qui a une visibilité qui se réduit, dans un contexte où la visibilité se réduit parce qu'on ne sait pas où on va sur la baisse de taux. Donc, rajouter de l'incertitude à l'incertitude, eh bien, les investisseurs qui se disent tout simplement ben, « je prends mes gains » et c'est tout à fait légitime. Donc, la réaction, on ne peut pas dire qu'elle est exagérée. Elle est, je veux dire, dans le contexte actuel, vu la publication, c'est prévisible. Après, le dossier reste de qualité, le bilan est extrêmement solide, ça n'impacte pas la politique de distribution des dividendes, ni celle de rachat d'actions. Donc,
oui, mais enfin, on ne parlait pas d'une société dont la valorisation dans le PE était de 25, 30, 35, 40, 50. On parlait d'une société qui était déjà très décotée, même si elle a rebondi depuis le début de l'année. Stellantis, c'était encore pas cher, et pourtant, on est sur du moins 10 aujourd'hui.
Oui, mais parce que sur Stellantis et sur le secteur automobile, on ne regarde pas finalement la valorisation. La question, c'est aujourd'hui, vous avez un modèle qui repose sur des voitures thermiques et des voitures électriques. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il n'y aura plus de voitures thermiques. Et on ne sait pas aujourd'hui si il y a des acheteurs sur les voitures électriques. Donc on est sur un sujet sur plus quelle est l'approche. Et puis vous avez Elon Musk qui vous annonce que demain il y aura des voitures autonomes. Donc on voit que les défis sont colossaux. Chez Stellantis, il y a une flopée de marques, des tonnes de modèles. Donc
ça... il y en aura beaucoup à venir dans les prochains mois. En plus.
Il y en aura encore d'autres à venir dans les prochains mois. Donc l'enjeu, est-ce que demain il y aura une voiture qui sera désirée et abordable à un prix justifié par les consommateurs. Et là, on n'a pas la réponse. Donc, comme on n'a pas la réponse, eh bien, les investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent, parce que l'historique de performance de Stellantis, il est remarquable, eh bien, ils vendent, ils prennent bien sûr leurs bénéfices en se disant, bon, on va se positionner sur des sociétés qui proposent une meilleure valorisation, une meilleure visibilité, pardon. Et la valorisation, c'est vrai qu'elle est faible. On est sur des ratios cours sur bénéfice de 3 fois, mais c'est pas l'enjeu.
3 fois.
C'est beaucoup moins cher que les banques, c'est moins cher.
C'est l'année dernière, oui.
Oui, parce qu'il y a eu des bénéfices records, la société marche plutôt bien, mais on ne sait pas si demain, il y aura encore des voitures Stellantis.
Ah bon ?
Si durablement, vous avez une société qui se paye 3 fois quand le marché se paye 15 fois et que vous avez des valeurs de qualité qui se payent 40 fois, si vous êtes toujours à 3 fois, c'est qu'il y a un problème sur les 3 fois.
Effectivement. Et alors,
donc ça veut dire que demain, vous n'êtes pas sûr que dans 10 ans, il y aura autant de véhicules vendus.
En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a, toute comparaison n'est pas raison, on est d'accord. C'est vraiment pour schématiser, c'est une forme de caricature, on sera bien d'accord. Mais vous dites qu'il y a une forme de menace nucléaire quand même sur un certain nombre d'acteurs automobiles aujourd'hui. Alors, il y a les véhicules électriques, les véhicules chinois et les véhicules autonomes qui arrivent aussi avec
Tesla. Regardez le changement d'ambiance et de climat et de température sur Tesla. Vous étiez sur une croissance durable à 2 chiffres, encore au 3e trimestre. Au 4e trimestre de l'année dernière, il n'y avait plus de croissance du chiffre d'affaires. On défendait le volume en baissant les prix. Et là, maintenant, on est sur une décroissance. Donc, on voit qu'on est passé d'une demande extrêmement forte à maintenant à gérer la décroissance, et on est passé sur un produit extrêmement désirable où le prix n'avait pas vraiment d'importance parce que le consommateur il voulait acheter une Tesla et ça faisait bien d'acheter une Tesla, et on est sur un marché où continuer à vendre la Tesla, on est obligé de baisser son prix de quelques centaines voire milliers d'euros. Donc on voit que le climat change radicalement, et donc ça incite bien sûr à la prudence.
Il y avait une histoire quand même autour de Stellantis là, du rebond, du grand retour.
Tesla aussi, une très belle histoire, et on est à moins 40 depuis le début de l'année.
Moins 9,5, c'est un point d'entrée ou pas, Stellantis, moins 9,5 d'après vous, François?
Nous, on reste à l'achat sur ce titre-là, mais la réaction, la bourse n'a pas compris la publication et pas dans le décor.
C'est une question qu'on vous pose à vous aussi sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, notre fil LinkedIn, notre fil XBFM Bourse aussi. En pleine guerre des prix, quel constructeur européen parviendra à préserver le tarif de ses véhicules? Est-ce que ce sera Mercedes qui a publié aussi ses résultats? Ils sont sanctionnés, Mercedes dit pourtant vouloir maintenir le prix de ses véhicules, ne pas entrer dans une guerre des prix. Est-ce que ce sera donc Mercedes qui les préservera? Est-ce que ce sera Stellantis? Plutôt Volkswagen ou pourquoi pas Renault pour parvenir à préserver le prix de ces véhicules? Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir voté pour vous, Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a l'un de ces constructeurs qui, oui, à vos yeux, pourrait parvenir à préserver ses marges et les prix de ses véhicules?
À horizon un an, on voit que la dynamique la plus intéressante pour nous, c'était Renault. Donc on avait été porteur de Stellantis et notamment dans nos fonds, dans nos gestions collectives, on l'avait arbitré pour Renault parce que il y a une gamme qui arrive qui paraît intéressante. Mais peut-être pour rejoindre ce que vous disiez, c'est le coût de fabrication d'un véhicule, par exemple Tesla, c'est 10 à 15% moins cher à équivalent à un véhicule européen. Et en Chine, c'est 10, 15% moins cher que Tesla. Donc ça fait une vraie différence de compétition. On voit bien que l'Europe essaye de contrer cet élément-là. Mais quand on voit une intégration verticale plus importante finalement pour les constructeurs chinois avec un accès aux batteries, aux matières premières plus important, c'est ce risque-là qui pèse sur les constructeurs européens en effet. Ouais.
Je pense qu'il n'y en aura aucun qui va pouvoir résister à une baisse des prix.
Aucun constructeur européen ne parviendra à préserver ce prix.
Sauf si on met des taxes sur les véhicules asiatiques, et notamment chinois. Donc la question, elle est plutôt politique. C'est est-ce que les politiques, dans le bras de fer avec la Chine, vont se mettre d'accord? En France, on voit qu'il peut peut-être y avoir une volonté de taxer ces véhicules qui rentrent comme du temps de Calvet chez Peugeot, pour ceux qui ont de la mémoire boursière et économique. Mais on voit que les Allemands sont plutôt plutôt réticents parce qu'ils vendent des machines aux Chinois. Donc, mais s'il n'y a pas de taxes à l'entrée des véhicules asiatiques et chinois, eh bien là, il y aura une guerre des prix et elle va faire du dégât.
Oui, et les Allemands sont vraiment entre deux eaux, c'est ce que vous disiez. Ils sont dans une position extrêmement inconfortable parce qu'effectivement, si on taxe les véhicules chinois à l'entrée de l'Union européenne, alors ce sera bien pour défendre les constructeurs allemands, très bien, face aux constructeurs chinois, mais en même temps, les Allemands, eux, ils vendent quand même des machines-outils aux Chinois. Donc si on taxe les produits chinois, ben, les Allemands leur vendront peut-être moins de machines-outils. Ils sont entre deux eaux, là.
Et dans l'équation, on peut mettre les voitures japonaises qui, avec un dollar yen qui a flirté avec les 160, retrouve une compétitivité extraordinaire aussi. Donc,
Il y a ce match existentiel là, en ce moment dans l'automobile, et puis il y en a un autre de match dont on va tout de suite vous faire part, c'est dans la nutrition. À qui l'avenir appartient-il ? C'est donc notre match. Fight. C'est la bataille du jour. Elle se joue aux États-Unis, le match de l'anti-obésité. Eli Lilly a publié ses résultats tout à l'heure. Le groupe relève ses prévisions. Le titre à Wall Street gagne 6%. À ma droite, Eli Lilly qui cartonne. À ma gauche, McDonald's, moins 1%. McDonald's a annoncé tout à l'heure ses résultats. On a aussi Coca-Cola, alors qui relève quand même ses prévisions. Autant de publications et ce match, donc, l'anti-obésité d'un côté, Eli Lilly, Coca et McDo de l'autre. À qui l'avenir appartient-il d'après vous ? C'est notre fight, notre match de ce club. François, Jean-Jacques, à qui l'avenir appartient-il ? L'anti-obésité ou plutôt des groupes comme McDo, Coca-Cola, Enco ? Jean-Jacques ?
C'est évident qu'il y a un boulevard pour la Lilly, mais ce qu'il faut voir, c'est que les chaînes vont évidemment réagir. Il y a déjà des grandes chaînes qui sont sur un aspect sain de la santé. Donc, des groupes comme ça, c'est même étonnant finalement que ça ait pris tellement de temps. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la mort finalement des fast-foods. Il y a de la place pour absolument tout le monde. Mais la vraie tendance de long terme, elle est évidemment sur ce genre de société.
Oui, ouais, et en même temps, on voit ces groupes-là se transformer quand même face justement à l'arrivée des médicaments anti-obésité, Coca-Cola, notamment de plus en plus de bio chez Coca-Cola qui relève ses prévisions. Coca-Cola, effectivement, et le titre à Wall Street progresse. Alors, pas autant qu'Eli Lilly, mais il est en hausse. Intéressant. C'est le hasard du calendrier et ses publications.
Après, je dirais que juste pour les médicaments au sens large, s'il y a bien un domaine où l'IA sera vraiment porteuse d'avancées extrêmement rapides, c'est dans le domaine pharmaceutique. Donc là, il y aura vraiment des avancées et une productivité, une amélioration de la productivité qui sera colossale. Toutes les personnes qui recherchent, pour paraphraser la phrase de De Gaulle, il y avait avant beaucoup de gens qui cherchaient, mais peu qui trouvaient. Maintenant, je pense qu'avec l'IA, on va trouver des découvreurs et pas seulement des chercheurs. Ouais.
À qui l'avenir appartient-il, François ?
Oui, je pense que Eli Lilly n'a pas dit son dernier mot, et notamment et Novo Nordisk qui va publier dans quelques heures non plus. Hein, ce sont les deux concurrents dans le secteur anti-obésité. Novo Nordisk a même peut-être un temps d'avance. Après, c'est pas parce qu'on prend des médicaments anti-obésité qu'on va se mettre, pour reprendre votre titre, à consommer de la malbouffe. Hein. Ce qu'on voit sur McDonald's, c'est qu'en fait, la corrélation du titre, elle n'est pas tant au fait qu'il y a arrivé avec des médicaments anti-obésité. McDonald's répond à une demande qui est de dire il y a un problème de pouvoir d'achat lié à l'inflation, et finalement, on peut manger un repas chaud à moindre coût. Et c'est ça qui fait le succès du modèle économique de McDonald's et les performances de sa croissance bénéficiaire. Donc c'est plus, McDonald's est plus vu par les investisseurs comme une valeur, j'ai envie de dire, pouvoir d'achat. Et c'est ça qui a porté boursièrement le titre. Et Lilly, comme Novo Nordisk, on est sur de la R&D, on est sur des annonces, on est sur un marché de personnes obèses qui est stratosphérique et donc et qui est solvable, parce que ça se passe surtout dans les pays occidentaux et surtout aux États-Unis, où on sait que le prix des médicaments aux États-Unis sont deux fois, trois fois, quatre fois plus élevés que ce qu'on peut observer en Europe et en zone euro. Donc voilà, c'est ça un peu le sujet. Sur Coca-Cola, oui, ils essaient de se mettre, j'ai envie de dire, au vert. Bon, il y a encore peut-être un petit peu de travail.
Intéressant. Et alors, les acteurs des prothèses de genoux aussi sont disruptés par l'arrivée des pilules coupe-faim, des médicaments anti-obésité, parce que quand on est un peu en surpoids, on a besoin de prothèses de genoux, et il semble que les acteurs des prothèses de genoux s'inquiètent de l'arrivée de ces médicaments anti-obésité. En tout cas, Eli Lilly relève ses prévisions, et vous le disiez, Novo Nordisk, notre champion européen du secteur et du domaine, Novo Nordisk annoncera aussi ses résultats, ce sera jeudi 17h26, il n'est pas obèse du tout, il a la ligne, c'est Étienne Bras qui nous appelle depuis la Tour Euronext à 9 minutes de la clôture. Étienne, le CAC aussi en petite cure d'amaigrissement. Là, on est encore en baisse ce soir sur l'indice parisien.
Bah oui, après 5 mois dans le vert, le mois d'avril sera un mois de pause, hein, avec notamment une baisse de 2,7% désormais en données mensuelles. Et pour cause, vous avez une baisse qui s'accélère à la Bourse de Paris, moins 1%, c'est désormais le tarif, avec un indice qui redescend sous les 8000 points, à 7981 points. Du côté de Wall Street, vous avez trois indices qui perdent entre 0,6 et 0,7%. Beaucoup de prudence avec Amazon ce soir, la Fed demain, jeudi Apple, vendredi l'emploi américain. Bref, la semaine est très chargée. À noter que le secteur automobile est en baisse de façon marquée en Europe. Il n'y a pas que Stellantis. Hein. Vous avez Mercedes également qui perd 4%. Vous avez également Volkswagen qui est sous pression à Francfort. À noter par contre, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, qu'en données mensuelles, vous avez un actif qui est en baisse marquée également, en dehors des indices actions. C'est le pétrole qui perd un peu plus de 1,5% en ce mois d'avril. Par contre, là aussi, il avait beaucoup progressé ces derniers mois. 86$ à l'instant pour le baril de pétrole et des prises de bénéfices également marquées sur l'once d'or qui redescend à 2 300$, moins 2% ce soir.
Dans 7 minutes, la clôture, vous nous la ferez vivre sur BFM Business. Et vous tous qui nous suivez, vous vous demandez aussi quel potentiel technique attend les indices. On en parlait avec Alexandre Tixier, l'analyste du portefeuille trading BFM Bourse. C'était à 15h55. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Le potentiel technique des indices, vous allez dans Culture Bourse une fois que vous êtes dans la page replay. Tout de suite, on entre dans la Data Room. Les data, c'est leur dada, à cheval sur les chiffres. Ils veulent, par leur data, nous réveiller et mettre en selle vos portefeuilles boursiers. Jean-Jacques et François, êtes-vous prêts ?
Oui. Oui.
C'est ici et maintenant que tout se joue. Vous avez 1 minute 30 chacun pour présenter une data de qualité. Jean-Jacques, votre data, on va démarrer avec vous Jean-Jacques. Votre data, x2.
x2. Bah, peut-être une data d'actualité, parce qu'on a beaucoup parlé avec François de la baisse des taux qui était favorable au marché. C'est-à-dire d'attendre la baisse des taux est favorable au marché. Mais il y a une autre évidence aussi qu'on doit rappeler, c'est que des taux plus élevés, habituellement, c'est une croissance plus forte. Et donc, beaucoup d'analystes en ce moment découpent, depuis une trentaine d'années finalement, le marché suivant les niveaux de taux. Des taux moyens, entre 4 et 6%, des taux longs, des taux inférieurs à 4% et des taux supérieurs à 6%. Et le résultat, qui peut être un peu anti-intuitif, mais qui corrobore une vérité, c'est lorsque les taux sont supérieurs à 6% que la performance du SP500 est la plus forte.
Quoi ?
Oui.
Quand les taux sont les plus élevés, on dit toujours les hausses de taux sont l'ennemi des performances boursières. Vous dites c'est l'inverse à Wall Street.
Alors, c'est-à-dire que quand les taux sont stabilisés à des niveaux élevés et que ça traduit une croissance forte, eh bien là, finalement, c'est les meilleures performances du S&P. Et un chiffre simple à retenir, c'est que la performance du S&P a été, sur les 30 dernières années, depuis même 90, deux fois supérieure, 15% en rythme annualisé, contre 7,7%, pour être précis, quand les taux étaient inférieurs à 4%.
Donc, mais pourvu que la Fed continue de relever ses taux et nous monte à plus de 6% dans ce cas, puisque vous nous dites sur cette période depuis 1990, quand les taux, le 10 ans américain était à plus de 6%, le S&P a deux fois plus progressé que quand il était sous 4%.
Alors on voit bien que les chiffres tombent à bon escient, sont peut-être un peu instrumentalisés, etc. Oui. Donc on préférait la baisse des taux. Mais rappelez cette évidence, si les taux se stabilisent et que la croissance reste forte, comme un segment à tenir lieu aujourd'hui, voilà, c'est qu'on peut arriver, ce que je disais tout à l'heure, avec un seul moteur finalement, à se persuader de la poursuite d'une bonne tenue des marchés.
C'est ça, des taux élevés, quand ils sont installés, c'est un terme important, sur des niveaux élevés, sont signe d'une croissance aussi forte et robuste, et là, les actions en profitent particulièrement.
L'aspect numérateur et perspective des résultats, amélioration des dividendes, l'emporte, oui.
Effectivement. L'idée que c'est la force de la croissance et des résultats qui surpasse celle des taux. Effectivement. Jean-Jacques, vous avez été généreux en data aujourd'hui, une data de qualité que vous nous avez présentée dans cette data room. Maintenant, la pression vous revient. François Monnier, votre data... Alors justement, on va rester dans le monde obligataire. Votre data, 4,6%.
Mais justement, on n'est pas en dessous de 4 ni au-dessus de 6. On est à 4,6% sur le taux à 10 ans américain. Oui. Et donc, ça traduit quand même une certaine nervosité. Parce que ces 4,6% sont construits sur le fait qu'il y a quand même des poches de résistance de l'inflation avec une croissance qui est moins forte. Donc c'est une situation qui n'est pas notamment confortable, en tout cas pour les investisseurs actions, parce que, comme on vient de le dire, on aime peut-être des taux élevés, à condition que derrière, c'est le signe qu'il y a une croissance qui est forte et durable. Là, ça ralentit et il y a des poches de résistance de l'inflation, donc on est sur une ligne de crête. Donc il ne faudrait pas non plus que les 4,6 se rapprochent des 5 avec une croissance qui faiblit. On peut accepter qu'il y ait encore un peu plus d'inflation que prévu. à condition que la croissance reste dynamique comme on a pu le voir, et c'est ce qu'a réussi à faire l'économie américaine tout au long de l'exercice 2023. Mais là, on a quand même des signaux où ça ralentit, certes pas très fort, mais ça ralentit quand même, avec une inflation qui est toujours présente. Donc c'est à, notamment à surveiller, et c'est pour ça que la Fed est dans une situation qui n'est pas très confortable, ni la BCE, même si la BCE maintient le fait qu'elle va baisser ses taux en juin, elle a besoin d'être accompagnée par la Fed.
Moi, j'ai le sentiment que on est peut-être ici en Europe, peut-être enfin entré dans une forme de scénario Goldilocks, enfin boucle d'or un peu moins puissant qu'aux États-Unis, c'est vrai. Mais tout à l'heure, le chiffre de la croissance a été publié en Europe. Franchement, on a un petit retour de croissance quand même en Europe au premier trimestre. Le chiffre est très encourageant, plus 0,3 d'un trimestre sur l'autre. On était à moins 0,1 le trimestre précédent. Donc c'est très très bien. Et parallèlement, l'inflation dans les services qui ralentit un peu. Donc on a un regain de croissance et une inflation qui ralentit un peu en Europe. C'est nickel, ça. Enfin, la BCE est en train de réussir son coup quand même, là, François.
Oui, elle a réussi partiellement son coup, mais on ne peut pas réussir tout seul. Tout est interconnecté, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on le voit, même si on annonce des bonnes nouvelles aujourd'hui, eh bien on prend acte qu'il y a des nouvelles qui sont un peu moins agréables de l'autre côté de l'Atlantique, et ça fait baisser quand même les indices européens, ça fait baisser le CAC 40, donc tout est interconnecté. Après, là on parle d'une séance quotidienne, qu'on regarde sur plus longue période, le fait que finalement, en Europe, on arrive à s'en sortir au niveau de l'inflation. Ça veut dire que les actions européennes sont promises à un meilleur avenir que les actions américaines. Mais ça ne peut pas se mesurer sur une séance ou sur une semaine. Mais ça veut dire qu'en relatif, il y a peut-être plus à gagner du côté européen et du côté français que du côté américain.
Oui.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est en relatif. En absolu, on a besoin que tout soit orienté de la même manière.
Toujours regarder autour et pas que du même côté. On parle tout le temps des États-Unis, mais de l'autre côté, au Japon, on a un yen qui est au plus bas de 33-34 ans, là, oui, désormais, et donc une concurrence japonaise. Exactement. Vis-à-vis de notre production ici en Europe, nos exportations, une concurrence japonaise qui, elle aussi, Jean-Jacques, est en train de monter en puissance. Il faut l'avoir à l'esprit, ça.
Exactement. Et donc, l'idée que, sans doute, face à cette concurrence, là, il y a une intervention unique de la Banque du Japon. Il y aura sans doute un accord, enfin, je veux dire, une intervention concertée. Et là, il y a un potentiel d'appréciation du yen extrêmement important.
D'accord. Ils ne laisseront pas filer le yen à la baisse comme ça.
Le yen, puisque ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni l'Allemagne, ni les États-Unis sont favorables à ça. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un potentiel d'appréciation. Je veux dire, c'est 35% de hausse du yen qui est le potentiel d'amélioration, tellement on s'est écarté de la parité des pouvoirs d'achat.
Merci à tous les deux. La Data Room, Jean-Jacques Friedman pour Vega IM et François Monnier pour Investir. Bon retour, messieurs, et bonne soirée. Dans un instant, Étienne Braque sera avec nous, la Tour Euronext, pour la clôture des marchés européens, la clôture de la semaine. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse, cet article consacré aujourd'hui à l'ancien SES Imagota, qui a changé de nom, qui s'appelle désormais Vusion Group, figurez-vous. Eh bien, Vusion Group fait un pas de plus avec Walmart pour développer ses solutions. Enfin, tabac, hein, les solutions d'étiquette électronique de Vusion Group, et donc un rapprochement peut-être même capitalistique avec Walmart. Le titre Vusion Group gagne, tenez-vous bien, 15%. L'article est consultable si vous souhaitez, n'hésitez pas à y jeter un œil. Dans un instant, donc, la clôture. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
On a le printemps du Valdi, on a en plein mois d'avril qui est en train de s'achever. C'est la dernière clôture du mois d'avril d'ailleurs sur les marchés. Et cette clôture, elle est à l'image de l'ensemble du mois, pluvieuse en l'occurrence. Étienne Braque est avec nous depuis la Tour Euronext. Oui, on solde un mois d'avril pluvieux en bourse en espérant qu'on rattrape le coup sur le mois de mai. Étienne, comment termine-t-on la clôture ce soir sur les indices européens ?
Dans le rouge, et la séance enfonce le clou avec un CAC 40 qui perd 2,7% sur l'ensemble du mois d'avril. Moins 1% ce soir à la clôture avec l'indice qui perd les 8000 points. Souvenez-vous, il les avait perdus ces 8000 points en séance cette semaine avant finalement de se rattraper. Bon, bah là, ils sont pas là. Et pour la première fois depuis le 17 avril, le CAC 40 échoue à clôturer au-dessus de cette barre symbolique. À noter que les volumes d'échange sont présents ce soir puisque vous avez quasiment 4 milliards, 3,9 milliards pour être précis, négociés dans l'indice. Forcément, c'est la dernière séance du mois, donc il y a des arbitrages de portefeuille, que ce soit en gestion active, mais aussi en gestion passive. Gestion d'arbitrage notamment sur le secteur du luxe, hein, qui comme hier, sous-performe très clairement. Des prises de bénéfices sur Hermès, qui perd 2%. Vous avez le LVMH qui perd 0,6%. Et puis, il y a bien sûr un secteur qui pèse très clairement sur la tendance ce soir. C'est le secteur automobile. Rendez-vous compte, Stellantis perd 10% après la publication de ses résultats du premier trimestre à 20,88 €. Rendez-vous compte, sachant que là aussi que le titre perd 20% en l'espace d'un mois. C'est de loin la pire performance mensuelle de l'indice. Vous avez Dassault Systèmes, Kering ou encore Edenred et Airbus qui perdent 10% en l'espace d'un mois. Mais là, Stellantis enfonce vraiment le clou avec la séance du jour. Sanofi et L'Oréal sont les deux plus fortes hausses ce soir avec des gains de 0,7 et 1,3%. Et puis un actif qui perd également du terrain sur l'ensemble du mois d'avril, c'est le pétrole avec une baisse de plus de 1,5% en données mensuelles. Après un très beau parcours, le pétrole revient à $86 ce soir et donc le CAC 40 qui clôture en baisse du rouge, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, 7 984 points ce soir à la clôture, le tout donc avec du volume pour cette dernière séance du mois d'avril avant la BCE demain soir.
Stéphane Sauduteil nous accompagne effectivement avant la fête qu'on suivra demain, les membres de la fête sont réunis. Stéphane, trader pour compte propre, bonsoir Stéphane, quel signal pour la suite cette clôture mensuelle envoie-t-elle pour les marchés européens?
Écoutez, on est toujours dans cette même zone depuis quelques temps, supportée par les 7900 points et puis cette résistance autour des 8150-8200 points. Donc depuis pas mal de semaines, on évolue entre ces deux bornes. Alors, on est quand même revenu assez rapidement vers le bas de cette zone aujourd'hui. On flirte avec les 7950 points qu'il faudra observer demain. C'est un premier niveau de support. C'est l'avant-dernier niveau de support avant les 7900 points. Et 7900 points, il faudra absolument les préserver sous peine de démoraliser de nouveau les investisseurs. Et là, on pourrait peut-être avoir un petit trou d'air. N'oublions pas également qu'on a 154 points de gap restés ouverts en dessous de ce niveau, répartis en trois gaps, jusqu'à 7400 points. Donc attention quand même, il faudra préserver les 7900 points sous peine d'accélérer encore la baisse. Et à la hausse, il faudra maintenant regagner les 8100-8150 points pour espérer de nouveau la zone de points hauts. Mais on consolide quand même relativement calmement. On a perdu moins de 3% depuis le sommet historique. Les États-Unis ont perdu 7-8%. Donc on a un CAC 40 quand même qui fait office de résistance par rapport au marché américain. Et les taux n'y sont pas pour rien, bien entendu, avec l'espoir de baisse de taux de la part de la BCE au mois de juin.
Merci beaucoup.
Donc voilà, on est toujours à peu près dans les mêmes zones. On a un balayage de cette zone en règle. Tantôt, on va chercher la partie un petit peu supérieure. Tantôt, on vient vers la partie inférieure. Et là, c'est le cas actuellement. Alors attention quand même aux résultats d'Amazon ce soir, du FOMC, oh oui, du NFP, qui pourraient peut-être mettre de l'eau au moulin encore du CAC 40 dans les prochaines séances.
Ce soir, Amazon publiera après la clôture, et puis le NFP, toujours le jargon, le rapport sur l'emploi américain, ce sera vendredi à suivre bien sûr. Merci beaucoup Stéphane. Tiens, vous nous accompagnez, si ça vous dit Stéphane, jusqu'à 18h depuis vos bureaux pour mesurer le potentiel technique aussi d'un certain nombre de valeurs. On va aussi refaire l'ensemble de cette séance et répondre aux questions que vous nous envoyez, vous tous qui nous suivez à la radio, à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, répondre aux questions que vous nous avez envoyées tout au long de la journée. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec ce soir Pierre Bouchny pour Kepler Cheuvreux, il nous accompagne. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue. Clôture mensuelle donc à l'image de l'ensemble du mois d'avril, clôture pluvieuse sur le marché. C'est un printemps pluvieux en bourse.
Absolument.
Pas qu'en bourse d'ailleurs.
Le mois de mai sera meilleur.
On espère, effectivement. Sell in May and go away, vous donnez un peu d'attention à ce genre d'adage, ou sell in May and go away, ou pas plus, non, pas plus que ça. L'expérience montre que c'est pas si vrai, effectivement. Le mois de mai peut être tout à fait positif, on verra. En tout cas, ce soir, le marché a la dent dure. Enfin, la publication de Stellantis, elle n'est pas brillante, on est d'accord, mais c'est la publication qui marque cette séance, moins, combien là ? 10,5% et quasiment en clôture. Est-ce que, alors, question très simple, c'est quand même sévère, enfin ça semble sévère, est-ce que c'est un point d'entrée d'après vous sur Stellantis ?
Bon, on n'est pas spécialement acheteur sur les constructeurs automobiles, mais par contre, celui qu'on préfère très clairement au sein de cet univers, c'est Stellantis. Il y a beaucoup de questions sur ce secteur, et ce qu'a pu dire Stellantis, je dirais, apporte un peu d'eau au moulin à la problématique, aux questions que se posent les investisseurs, c'est-à-dire, est-ce que les volumes vont tenir et dans un environnement prix qui a des chances d'être difficile. Sur les véhicules électriques, il y aura probablement des baisses de prix importantes en 2024, ça c'est relativement certain. Et la question sur laquelle aujourd'hui les investisseurs vont commencer à se poser des questions, c'est est-ce que cette baisse de prix ne va pas toucher aussi la partie thermique des ventes des constructeurs automobiles. Et Stellantis jusqu'à maintenant à la fois a été très bon en termes de prix et a maintenu une politique prix plus agressive que celle de ses concurrents et jusqu'à maintenant était très bon en termes de gestion de ses coûts. Je dirais une des marques de fabrique de Casa Tavares, c'est de savoir gérer les coûts et d'adapter en fait sa structure de coûts à son environnement de top line. Donc nous on continue à faire confiance, même si effectivement on n'est pas acheteur de l'ensemble du secteur des constructeurs automobiles.
On continue à faire confiance, même s'il y a un énorme challenge sur les véhicules électriques. On sent que la demande ralentit. En plus, les prix des véhicules électriques ont tendance à baisser, et la concurrence chinoise et l'arrivée ensuite, sans doute à venir, on verra des véhicules autonomes. Tesla fait un pas important dans les véhicules autonomes, par exemple en Chine, mais pas que. Enfin, tout à l'heure, François Monnier nous disait, il y a quand même un risque existentiel sur un certain nombre de constructeurs. On ne sait pas si Stellantis sera encore là dans 10 ans, nous disait-il.
Je suis peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, effectivement. Le niveau actuel de rentabilité de Stellantis avec des marges à 10% qui ont été réitérées d'ailleurs par le management en termes d'objectifs pour 2024 à l'occasion de ce résultat trimestriel, n'est pas évident effectivement que dans 10 ans la profitabilité soit à ce niveau-là.
Et ça n'empêche pas Stellantis de faire partie des meilleurs comebacks dans cet univers automobile depuis maintenant quelques années. Carlos Tavares, quand même le succès de cette stratégie, mais aujourd'hui la publication, c'est vrai, déçoit fortement le marché après une incroyable hausse. Il faut aussi dire et rappeler d'où l'on vient sur Stellantis. On a eu une très très belle hausse ces derniers trimestres et ce soir moins 10,5. Alors on a eu une très belle hausse mais qui n'empêchait pas le titre de rester très très faible en valorisation. Le PE de Stellantis était à peine 3 et pourtant le titre perd 10% ce soir alors qu'on était sur un PE très très bas déjà.
Parce que en fait le PE c'est 24-25, donc il n'y aura peut-être pas 10% de marge en 2025, il y aura probablement 10% en 2024. Maintenant si les marges doivent être divisées par deux sur le temps long, donc vous évoquez les objectifs ou la situation à 10 ans, si on revient à 5% de marge, le PE 3 devient le PE 6.
Cette question qu'on vous pose aussi, vous tous, on vous prend à témoin sur nos réseaux sociaux chaque jour, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, d'après vous, parmi les constructeurs européens qui ont, pour la plupart d'entre eux, publié aujourd'hui, lequel parviendra à préserver le mieux les tarifs de ses véhicules, face aux Chinois notamment? Est-ce que ce sera Stellantis, option 1? Est-ce que ce sera Mercedes? Autre option qu'on vous propose, Mercedes qui a communiqué en disant on ne baissera pas nos prix. Est-ce que ce sera, à vos yeux, plutôt Volkswagen ou Renault? Pourquoi pas Renault qui parviendra le mieux à préserver les tarifs, les prix de ses véhicules? Vous avez été nombreux à voter, et à 46%, vous avez voté Mercedes, devant Stellantis à 29%. Puis Renault arrive derrière, à 17% seulement Renault. Oui, c'est pas surprenant en l'occurrence.
C'est un peu le poids de l'histoire, c'est-à-dire qu'historiquement, la capacité des constructeurs premium a été meilleure en termes de gestion des prix, de capacité à maintenir ces prix. Et c'est pas illogique qu'on règne qu'en troisième, deuxième, troisième et quatrième, les acteurs dits du mass market, sur lesquels les pressions étaient historiquement plus fortes en termes de prix.
Stéphane Solutay nous appelle. Stellantis, Stéphane, ce soir perd plus de 10% d'un point de vue technique. Est-ce que vous voyez cette baisse amenée à se prolonger? Étienne nous le disait, sur un mois, on est sur du moins 20% désormais pour Stellantis.
C'est vrai qu'on a cassé un niveau de support très important autour des 22,50 et là, ça a démoralisé un petit peu les investisseurs avec les mauvais résultats. Donc on a ce niveau technique et psychologique autour des 20 euros qu'il faudra essayer de préserver à tout prix, sous peine de poursuivre encore la baisse. Mais c'est vrai que la baisse est quand même très importante en rythme mensuel. Donc il va falloir bien entendu une phase de stabilisation. On ne retient pas un couteau qui tombe, c'est le vieil adage. Donc il va falloir quand même une phase de stabilisation et pas revenir tout de suite sur le titre qui peut encore, je pense, dégringoler.
Ce soir, le CAC 40 termine en repli de 0,9%. On abandonne les 8000 points quand même en clôture mensuelle. Une autre valeur qui a publié un autre titre, Capgemini. Les ventes baissent alors comme prévu, mais le titre perd 3,7%. Même question, Pierre. Elle est simple, elle est basique, mais c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un point d'entrée ce soir sur Capgemini?
J'aime bien effectivement Capgemini. Comme vous l'avez souligné, les chiffres du premier trimestre étaient assez en ligne avec ce qui était attendu. Ce que le marché joue sur ce secteur, et pas seulement sur Capgemini, sur le secteur des services informatiques, c'est que le point bas en termes de décroissance ou de mollesse d'activité sera touché au cours du premier semestre. Donc on y est, moins 3,5% sur le premier trimestre, avec des chiffres par zone économique qui étaient assez conformes à ce que le marché attendait. Néanmoins, moins 7% sur les US, donc c'est assez significatif. Nous, sur l'ensemble de l'année, on attend une croissance proche de zéro. Donc ça veut dire quelque part que le deuxième semestre sera meilleur. Et on attend notamment une accélération à partir de la fin donc du quatrième trimestre de cette année, et on voit une croissance de 6% l'année prochaine. Donc on est dans cette feuille de route et ça nous semble effectivement une bonne opportunité.
Capgemini, Téléperformance aussi sous pression avant sa publication qui va approcher là dans quelques... C'est ce soir, non?
C'est ce soir, effectivement.
Moins 4,5% la Téléperformance ce soir en clôture. Et puis un autre titre qui a souffert, décidément les publications aujourd'hui ne sont pas du goût des marchés. Alors là, c'est vraiment fin de séance, fin avril pourri.
Oui, absolument.
Sur les publications, en tout cas, la réaction des marchés, et le temps aussi, effectivement. Je sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas vu, il pleut dehors un petit peu. Bon. Air France, KLM, il pleut un peu sur Air France encore, qui nous annonce une nouvelle perte d'exploitation plus lourde qu'attendue au premier trimestre. Air France KLM a ce soir perdu quasiment 4%, Pierre.
Alors Air France,
c'est une fatalité la baisse d'Air France KLM, on est sur des pubs historiques.
Non, pas spécialement, c'est un secteur difficile, donc c'est un secteur qui a pas créé de valeur pour les actionnaires dans la durée. Le seul sous-segment de ce secteur qui a créé de la valeur, c'est ceux qui ont capté du trafic depuis 20 ans, c'est-à-dire les sociétés, les airlines low cost, c'est-à-dire EasyJet et Ryanair, mais ce qu'on appelle les sociétés legacy, c'est-à-dire Air France, KLM ou IAG, ce sont des sociétés qui ont plutôt détruit de la valeur pour les actionnaires. Donc,
ils sont malheureux, les actionnaires.
Non, sur ce trimestre, en fait, il manquait à peu près une cinquantaine de millions sur le résultat opérationnel. Alors, le premier trimestre est structurellement en perte. C'est-à-dire qu'Air France n'est pas revenu en perte avec un chiffre négatif de près de 500 millions sur le premier trimestre. On attend des bénéfices sur l'ensemble de l'année. Néanmoins, sur ce premier trimestre, il y avait une croissance qui était en ligne avec ce qui était attendu, à peu près 5%. Les capacités, ce qui est assez regardé par le marché, étaient en ligne avec le trafic, donc il n'y a pas de risque de pincement de marge. Par contre, il y avait une croissance de 12% des salaires, de la masse salariale. Le groupe a dit que c'était pour partie des éléments non récurrents, donc on verra si c'est effectivement le cas sur les trimestres à venir. Maintenant, je pense que dans un contexte où la demande va être un peu forte avec les Jeux Olympiques,
il
y a un rapport de force entre la direction et les employés qui n'est pas forcément à l'avantage de la direction.
Oui, donc les Jeux Olympiques, pas forcément une bonne nouvelle pour Air France KLM. C'est bon pour le trafic, mais en même temps, il y a des pressions salariales qui...
Un petit peu moins de trafic sur le business, probablement. Enfin, ce qu'a dit le management d'Air France KLM, c'est qu'il ne voyait pas d'effet, en fait, des Jeux Olympiques. Ce serait relativement neutre. Entre les plus, effectivement, de la croissance sur les 4, 5, 6 semaines des Jeux qui sera favorable. Ils ne vont pas mettre de capacité en plus. Mmh. Donc, ça sera une croissance de taux d'occupation et probablement de prix. Mais par contre, ils prendront un petit peu de trafic sur le reste du business, et notamment sur la clientèle affaires qui est la plus rentable.
Puisqu'on parle des Jeux Olympiques, un petit mot aussi d'Adidas qui a publié ses résultats. Alors l'Amérique du Nord encore en surstock, c'est un vrai souci pour Adidas. En revanche, ça va mieux en Europe et en Chine. Et puis il y a la perspective non seulement des Jeux Olympiques, mais aussi de l'Euro en Allemagne dans quelques semaines maintenant. Adidas,
vous savez qu'il y a eu une problématique avec Yeezy, cette société qui a dû être arrêtée donc, suite aux propos de son inspirateur Kanye West. Adidas s'est retrouvé avec plus d'un milliard de stocks à écouler sur l'Amérique du Nord.
Ils y arrivent peu à peu.
On regarde beaucoup en fait l'évolution des stocks, donc c'est moins un milliard sur un an, moins 100 millions sur le trimestre, donc ça va dans le bon sens. Et effectivement, sur les zones où ça va bien, c'est-à-dire l'Europe plus 13% et la Chine plus 8%, l'Europe ça doit être à peu près la moitié du chiffre d'affaires et la Chine une quinzaine de pourcents, ça va plutôt bien. Il reste les US où on est à moins 7 ou moins 8, je crois.
Merci beaucoup. Pierre Bouchny nous accompagnait pour Kepler Chevreux ce soir et la clôture donc de ce mois d'avril à l'image du mois pluvieuse. On recule de quasiment 1% à Paris sous les 8000 points. Demain, pas de séance à Paris. Mais oui, c'est le 1er mai. On se retrouvera donc jeudi pour un nouvel épisode de BFM Bourse. D'ici là, dans un instant, Guillaume Paul et toute son équipe. Good evening business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.